Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h04, on est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, avec Daniel Riolo, avec Loumir Lapreille, avec Robert Sobag. On vous attend également très nombreux au 32-16 pour commenter ce sondage. Moins d'un Français sur deux compte aller voter aux européennes. Sommes-nous irresponsables? À 13h30, ce sera le zapping, le meilleur d'RMC. On parlera du communautarisme dans le sport et puis on vous demandera si vous êtes un adepte des câlins. Voilà, il y a des études sur ce sujet. Et puis à 14h, la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubage qui encourage les parents à fouiller dans le téléphone ou dans la chambre de leurs enfants. D'accord, pas d'accord avec elle. RMC Conso, ce sera à 14h30. On parlera du boom de la location, de la poussette à la perceuse, tout se loue. Mais est-ce vraiment un bon plan? On répondra à cette question avec Charlotte Méritant. Et puis il y aura les immanquables. Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on va tous mourir.
Ouais, en tout cas, on va parler d'une situation inédite sur le front de la dingue en France.
Oui. Bah, c'est bien ce que je dis.
RMC Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec le chiffre du jour. 55% des Français ne comptent pas aller voter le 9 juin pour les élections européennes. C'est selon un sondage IFOP. Alors qu'on sait que traditionnellement, les Européennes ne mobilisent pas les foules. N'empêche que ce chiffre est inquiétant. Les moins enclins à se déplacer, Rémi, ça ne va pas faire plaisir à Loumir Lapreille. Déjà, ce sont les jeunes.
Ouais, c'est ce que dit un sondage OpinionWay. Si environ 55% des électeurs risquent de bouder les urnes le 9 juin prochain, le taux d'abstention des 18-24 ans pourrait se situer autour de 70%, 41% des 15-24 ans, 33% des 25-39 ans ne connaissent même pas la date du scrutin. Tout âge confondu, près d'un tiers des Français ne sait pas quand a lieu cette élection. Et parmi l'ensemble des électeurs européens, les Français figurent parmi les moins motivés. Ça, c'est ce que nous dit une autre étude réalisée par Eurobaromètre. Elle a été publiée la semaine dernière. Et si 60% des citoyens européens se disent intéressés par le scrutin, seuls 47% des Français le son. Un manque d'intérêt pour les élections européennes qui n'est pas nouveau dans notre pays. Lors de la dernière élection européenne, c'était en 2019, avec 50% de participation en France, les électeurs étaient déjà en deçà de la moyenne européenne qui atteignait alors 50,97%. Cette année-là, 73% des Maltais étaient allés voter, 64% des Espagnols, 61% des Allemands et donc à peine 50% des Français.
Alors, sommes-nous irresponsables? Je vais commencer avec vous, Loumir, parce qu'effectivement, ce sont les jeunes, surtout, qui ne vont pas se déplacer.
Oui, bien sûr, c'est un énorme problème. Moi, j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent, surtout celles de mon camp et de ceux de mon camp, à aller voter. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même à une... Enfin, il faut réaliser ce que c'est, 32% d'intention de vote pour le Front National. C'est presque 40% pour l'extrême droite.
Manifestement, les jeunes s'en foutent.
Alors, ils s'en foutent, je sais pas. Alors, il faut aussi dire que jusque très récemment, l'élection n'était pas vraiment rentrée dans le calendrier médiatique. C'est depuis cette semaine qu'on commence vraiment à en parler. Je le sais, je travaille en ce moment sur le sujet pour mon travail dont on parlait au début de l'émission. Donc, je crois qu'il y a vraiment plusieurs choses. D'abord, il faut réaliser à quel point l'Europe et l'Union européenne, elle a un vrai poids dans nos vies. En ce moment, on est en train de travailler sur le Green Deal, qui est le corpus de loi le plus ambitieux qui ait jamais été porté sur le terrain environnemental. Donc, si ça vous intéresse, et je parle notamment aux jeunes dont on sait qu'ils sont beaucoup à se poser des questions sur quelle planète ils vont vivre, sur quelle planète ils vont éduquer leurs enfants, qu'est-ce qu'on va nous laisser quand même. En fait, là, on essaye collectivement d'apporter des réponses au niveau européen. Et je vous l'annonce, aujourd'hui, si les élections avaient lieu demain, il y aurait une coalition de droite et d'extrême droite qui dirigerait l'Europe,
complètement,
et qui ne veut pas de ce Green Deal et qui a annoncé, Jordan Bardella l'a encore dit il y a quelques mois, il faut abandonner le Green Deal. Donc,
mais là, est-ce que ce discours-là que tu tiens et qui est cohérent, tu balances des chiffres, etc., bien, mais est-ce que les jeunes, ils l'entendent ce discours? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils s'en fichent totalement.
Non, je crois pas qu'ils s'en fichent totalement parce que, en fait, on sait aujourd'hui que les jeunes, la politique les intéresse. Donc, c'est les premiers à signer des pétitions, à aller dans la rue, etc.
C'est pas de la politique, ça.
Mais alors, si, moi, je pense que c'est. Moi, je pense que c'est de la politique.
Facile, ça. Tu pousses un coup de gueule et tu réfléchis pas, en fait.
Non, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que, donner son.
Mais t'es d'accord qu'il faudrait qu'ils aillent plus voter. Alors, voilà. Mais après, quand on vient nous donner des leçons, c'est vrai que t'as envie de dire, bah, t'avais qu'à aller voter.
Ils pensent que la politique, c'est mettre un coup de pied dans une porte.
Aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le vote n'est plus considéré par les jeunes comme quelque chose qui a de l'impact. On se dit, ça a plus d'impact d'aller manifester, ça a plus d'impact d'être militant dans une association, d'aller donner de mon temps pour une maraude, etc. Moi, je pense que toutes ces choses-là sont bien évidemment importantes, mais que le contexte dans lequel on milite, le contexte dans lequel on s'engage, il est façonné par les gens qui sont au pouvoir. Donc on ne peut pas faire l'économie de ne pas aller voter.
Enfin, après demain, moi quand je vois plein de, tu vois, alors effectivement des manifs anti-extrême droite, machin, les jeunes qui disent et en même temps ils vont pas voter, mais moi ça me sidère. Moi j'ai aucun problème avec les manifs, ouais, mais à un moment on va voter.
Je pense que beaucoup des gens qui sont dans les manifs contre l'extrême droite vont voter. Enfin
non, manifestement,
il y a quand même 30% des jeunes qui vont aller voter.
Mais c'est très faible.
Mais ça traduit. Alors Robert, n'en faisons pas un discours politique. Là il y a un problème, l'absentéisme, c'est pas simplement les européennes. Il y a une tendance à l'absentéisme, oui, déjà, même sur les présidentielles, avant, sur les législatives, etc. Oui. Là, les européennes, traditionnellement, effectivement, il y a une abstention, parce qu'il y a une absence de connaissance sur l'importance de l'Europe. Je ne rentrerai pas sur Big Deal, l'extrême droite.
Non,
mais c'est vrai que cette année en particulier, il peut y avoir une modification complète du Parlement européen, quand on regarde effectivement les sondages dans les différents pays. Donc là, il y a un problème de communication, d'explication, si vous voulez. J'ai envie de dire instruction civique, quelque part, de savoir ce qu'il en est. Mais derrière tout ça, c'est que les gens ne croient plus en la politique quelle qu'elle soit. Mmh. Qu'elle soit européenne, qu'elle soit française, internationale, ils se disent, ça sert à rien.
Les Français. Parce que ce qui est intéressant même... de voir les autres pays dans lesquels les gens votent
mieux.
Encore.
C'est un petit peu mieux. Mais ils se disent,
c'est 68%.
C'est 10%.
Ah bah oui, mais c'est énorme. Électoral, c'est énorme. Non,
tu as raison. Tu as
ça change tout. Moi, j'ai aussi une autre explication.
Malte, un petit pays, effectivement. Ouais. Là, on a effectivement une abstention moindre. Mais les gens ne croient plus. Ils ont l'impression que leur vote, quel qu'il soit, ne va pas changer leur vie quotidienne.
Oui, mais il y a aussi autre chose.
Mais c'est faux. Promesses. Non, mais le problème, voilà. Je dis le vécu de ces
personnes. Je suis d'accord.
Il est là. Bien sûr. Il est là.
Mais après, il y a un autre problème. Moi, je suis désolée.
Moi, je suis affolée.
Si tu vas voir n'importe quelle personne dans la rue, tu lui mets des photos des candidats aux européennes. Ben malheureusement, ou heureusement, ça dépend. Mais en fait, la seule photo qu'ils vont reconnaître, c'est Jordan Bardella. Montre-leur François-Xavier Bellamy. Je vais te dire un truc.
Valérie Ayé, pareil.
Valérie Ayé, mais personne ne sait qui est Valérie Ayé. Il y a que, alors peut-être un peu Marine Tondelier. En plus, on en a parlé parce qu'elle était tombée amoureuse d'un arbre. Bon,
elle n'est pas candidate, Marine Tondelier.
Non, mais je veux dire, du côté des Verts, mais il y a un moment où, si tu veux, t'as que Jordan Bardella.
Estelle.
Et Marion Maréchal Le Pen. Mais c'est terrible, mais il n'y a que l'extrême droite qui a envoyé, entre guillemets, des cadors du parti.
Estelle, nos politiques, ils ont une responsabilité.
Bien sûr qu'ils ont une responsabilité.
Le choix des listes, ce n'est pas les compétences de gens qui ont des compétences au niveau européen, au niveau international. On case des gens qu'on n'a pas pu caser, qui n'ont pas été élus, et on prend des gens comme ça parce qu'ils vont rien, voilà, qui n'ont aucune compétence particulière.
Quand on voit, vous pensez que la politique, c'est juste des images et de la communication. Alors, ce qui vous importe, vous, c'est.
Mais bien sûr, c'est exactement ce que
c'est. C'est la gueule sur la photo. Vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Mais oui, il y a une chose qui est très claire, très simple. Ça traduit la bêtise intellectuelle qui règne dans ce pays de plus en plus. Une faillite intellectuelle, une paresse intellectuelle.
D'accord.
Si les jeunes veulent pas aller voter, s'ils préfèrent mettre un coup de pied dans une porte ou penser qu'aller à une manif où ils vont juste avoir un avis négatif sans s'intéresser à la façon dont leur avis peut se transformer en vote en disant « je suis pas représenté, je suis pas ceci ». Mais est-ce que tu as fait l'effort de te renseigner ?
Oui.
Tous les partis politiques qui existent en France et qui se présentent incarnent toutes les idées politiques qui peuvent exister. Qu'on ne fasse pas croire qu'on ne se reconnaît ne pas dans des idées ou un parti. Tout ça, c'est du bidon. Et quand tu dis Estelle, ils reconnaissent pas la photo, ils reconnaissent pas la photo.
Vrai.
Si mes enfants, qui ont 18 ans, me disent, je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est un tel, comment tu le prends, toi? Tu sais comment je le prends, moi?
J'ai honte. Mais est-ce que
quand mes enfants me disent, je ne suis pas au courant de ça, ou je ne connais pas tel candidat, eh bien, j'ai honte parce que je le prends pour moi, parce que c'est une faillite dans l'éducation, c'est une faillite dans l'enseignement. Ça veut dire qu'on a échoué partout. Mais qu'on ne vienne pas me dire, il n'y a pas assez d'idées, je ne suis pas représenté par le vote, je ne sais pas pour qui voter. Et à un moment dans la vie, il faut se prendre en main. Il faut être un petit peu attentif à ce qui se passe, décrocher ses yeux de l'écran du téléphone, lâcher un peu TikTok et Insta.
Alors,
et là où tu as raison, et c'est très vrai, c'est important pour les jeunes d'aller dans des choses qui... qui sont des manifs, qui sont ce genre de choses dans
les associations,
le militantisme. Voilà, je cherchais. Mais ça doit se transformer en prise de conscience politique. Et il faut pas uniquement venir chouiner et dire ah oui, il faut aller voter parce qu'il faut combattre le Front National, il faut combattre. Non, il faut que ça se transforme en véritable idée. Il faut réfléchir. Il faut pas que ce soit simplement de l'anti.
Que ce soit seulement convaincue.
De la bagarre anti-machin. Renseigne-toi et vote. Donc je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus, mais il faut franchir le pas.
Tu prêches une convaincue, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu à convaincre les gens que leur vote, il change quelque chose.
Et il sert à quelque chose.
Et en fait, parfois, et c'est un peu terrible, moi je suis la première à le regretter, mais aujourd'hui, les preuves qu'on a que le vote change quelque chose, c'est que l'extrême droite au pouvoir change des vies. Quand le parti d'extrême droite passe en Pologne, il interdit l'avortement.
Mais c'est la démocratie, tu peux pas reprocher aux gens mais moi, de pas voter que comme toi.
Ce que je dis, c'est que les gens qui sont d'accord avec moi, et on est nombreux, ne pense pas que c'est possible chez nous que ça arrive, que on supprime l'avortement, que on revienne sur le mariage gay, que on revienne sur la coupe.
Tu prends que le prisme en fait.
Oui,
Mais
Pascal est politique. Qui s'abstient?
Mais il faut donner.
C'est surtout les progressistes.
Pour voter contre, faut voter pour.
Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je parlais du Green Deal, parce que pour moi, voter pour. Si on veut faire quelque chose pour l'écologie, c'est au niveau européen que ça se passe.
Exactement.
Et ça, les gens ne l'ont pas en tête.
C'est vrai que l'avortement est dans la Constitution maintenant, donc ne n'agite pas de chiffon rouge inutile.
Après,
on peut revenir sur plein de sujets sur les droits des femmes.
Mais le Green Deal, tu as raison. Après, moi, je pense que les médias ont aussi
une responsabilité qui nous informe vraiment. Les gens nous parlent de Bardella. Regarde par exemple, parle de Bardella. Non, mais par exemple, il ne vient pas
des européennes. Attends, on n'explique pas l'importance des européennes. On va pas faire un débat sur Bardella. C'est pas le problème.
Moi, je trouve que il y a des émissions politiques tout le temps.
Si on s'intéresse aux européennes,
mais non, parce que si tu t'intéresses pas du fond.
Mais oui, mais enfin, dans ce cas-là, au bout d'un moment, on va pas obliger les gens à s'intéresser aux européennes.
On parle pas du fond.
Aujourd'hui.
Donc on en revient à la paresse intellectuelle.
Toutes les chaînes possibles, tous les sites internet les médias possibles, toutes formes de médias.
Mais il y a une question sur à qui on fait confiance. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui vient d'une famille qui n'est pas politisée et qui se dit, ok, où est-ce que je vais chercher l'info? Et ben, c'est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent, je veux me faire mon propre avis. Je veux pas juste voter comme mes parents. Ce que je trouve franchement légitime de dire, j'ai envie de me faire mon propre avis.
Et après, tu vas sur TikTok ou sur Insta, tu vas faire un super avis.
La question, c'est justement où chercher cette information.
Sur Google, le Parisien,
tous les journaux, tous les sites spéciaux européens.
On en revient à la paresse et à la faillite de l'enseignement.
Pas tous en même temps.
Au lieu d'acheter les journaux.
Non, mais je te dis pas le contraire. Mais je te dis aussi que les médias, moi je trouve, et je suis assez d'accord avec Estelle, ne jouent pas forcément leur rôle parce que ce qu'on nous raconte, c'est plus la campagne que le fond. On n'explique pas aux gens, voilà comment ça fonctionne, voilà pour qui on vote, voilà concrètement ce que ça change dans tel pays et dans tel pays. Tu vois, par exemple, comment c'est possible qu'on ait eu les manifs des agriculteurs et qu'on ait à ce point si peu parlé d'Europe pendant la manif des agriculteurs?
N'importe qui, quel qu'il soit jeune, plus ou moins jeune ou vieux, franchement, si on le souhaite, il y a tous les supports possibles
pour
s'intéresser à
tous les sujets. C'est le mot que tu as dit.
Pour s'intéresser à tous les sujets. Agriculture, prix grande distribution, etc. Tu trouveras tous les articles que tu veux.
Mais aujourd'hui, les gens veulent être non seulement pris par la main, ils veulent qu'on leur parle à l'oreille et qu'on leur dise quoi faire. Bon. Même une bouteille d'eau quand il fait chaud.
Pas.
Aujourd'hui, on est dans un pays où il faut dire il fait chaud, bois.
Excusez-moi.
Donc, t'imagines que pour aller voter, il faut faire un effort supplémentaire pour s'intéresser et lire un programme et s'intéresser à ce que propose un tel ou un tel. Et après, on a des gens comme Lumière qui viennent dire aux gens, c'est pas bien de voter comme ça, vote comme ça.
Bon, Daniel, fais l'effort de t'arrêter. Je voudrais quand même qu'on prenne en ligne plusieurs auditeurs parce qu'ils sont avec nous. Ils ont très envie de parler de ce débat. Il y a Pierre notamment qui nous appelle du Loir-et-Cher et qui est militaire. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Bonjour. Pierre, vous vous déplacez ou pas le 9 juin pour aller voter?
Alors non, comme j'expliquais à Thomas au standard, moi en fait je suis en mission actuellement juste avant de partir j'ai parlé à ma femme de procuration. À savoir qu'on a 35 ans tous les deux.
D'accord.
Donc je lui ai dit est-ce que tu veux que je te fasse une procuration pour aller voter et tout. Elle me dit je sais pas si moi je vais aller voter. Concrètement, moi je me force et je la pousse aussi pour voter à toutes les élections, on va dire, qui concernent le pays. Là, comme je l'ai mis dans le message, alors j'ai entendu hein, les arguments de Daniel et compagnie. J'aimerais vraiment qu'à un moment, et je suis assez d'accord avec Loumir. Alors, on n'est pas forcément du même bord politique, mais je suis assez d'accord avec elle sur le fait que on ne s'intéresse tout le temps qu'à la forme. On ne parle jamais de fond. Vous ouvrez tous les médias, on ne parle que de forme. Oui. Mais un tel. Là, les élections, concrètement, Loumir le dit. Il faut y aller pour pas faire passer le Front National. Alors moi, je reste persuadé que, en gros, c'est une photo à l'instant T, mais que même si 100% des gens allaient voter, on aurait les mêmes résultats à la fin. Je pense qu'il y a autant d'abstention.
Alors l'abstention favorise traditionnellement les extrêmes, Pierre. Ouais.
Trois pages d'interview de Bardella dimanche. Invitation tous les matins sur BFM d'un parti politique qui décrit son programme.
En fait, attends, juste Daniel, là je te coupe. Je suis désolée. En fait, ce qu'on dit, faut que tu l'entendes, c'est que aujourd'hui, c'est très bien d'aller entendre les... Mais en fait, je pense que la majorité des gens ne comprennent pas l'enjeu des européennes. Oui. C'est tout. Voilà. Ouais. Après, peut-être que je me trompe.
Renseignez-vous.
Mais ne me parle pas à moi. Je le sais.
Pas toi. Renseignez-vous ceux qui se plaignent de ça.
Je te dis que ça. Et c'est aussi. Je suis désolée, mais c'est mon point de vue. Je pense qu'on a une responsabilité nous les médias sur effectivement un truc un peu. Je vais pas dire un abécédaire des européennes.
Sur le fond et pas la forme.
Mieux. Voilà. Si vous allez les européennes, voilà ce que ça va changer dans votre vie.
Exactement.
Tout à l'heure. C'est ce qu'on dit à chaque élection européenne. On dit.
Ok, Estelle. Alors moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Reviens dans l'émission. On fait un sujet sur comment fonctionne le Parlement européen. Tu veux, on y va ou pas?
Et ben pourquoi pas. Bon, Pierre, je vais finir.
Du coup, ce que je disais, c'est que, en fait, regardez, il y a peu de temps, vous avez fait un débat sur une remarque de, comment elle s'appelle? J'ai perdu son nom, la députée extrême gauche, féministe.
Mathilde Panot.
Sur les accoutrements pour les JO, là. Sur les vestes.
Sandrine Rousseau. Voilà, elle n'est pas d'extrême gauche, hein, elle est écolo.
Excusez-moi pour les termes. On a fait un débat, et en fait, on a fait un débat pour savoir si elle avait raison ou pas de s'offusquer. En fait, on s'est plus attaché à son tweet, concrètement, qu'aux problématiques. Et aujourd'hui, franchement, comment voulez-vous dire à des gens d'aller voter pour des parlementaires européens qui, c'était la bataille entre Aubry et Bardella sur qui avait fait le plus d'amendements. Mais moi, j'en ai rien à carrer du nombre d'amendements qu'ils ont fait. Moi, je veux savoir ce qu'ils proposent, en fait. Franchement, le nombre d'amendements et dire, j'étais là ce jour-là. Mais toi, t'étais là, mais tu fais quoi, concrètement? Qu'est-ce que ça influe sur ma vie, à moi? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de tous les jours?
Mais Pierre, je suis désolé, pardonne-moi. La semaine dernière, Bardella, et je pense qu'il vient une fois par mois, enfin, je ne sais pas le nom, mais juste parlons des derniers jours, il était une demi-heure sur BFM pour expliquer son programme. Ce week-end, trois pages d'interview dans le JDD. Et tu peux enchaîner avec les autres candidats aux européennes. Ils ont un espace de parole où, clairement, leurs idées sont énoncées.
Mais un des sujets, c'est concrètement sur la vie. Il y a une différence pour moi entre les programmes et concrètement sur la vie, ce que ça va changer. C'est-à-dire, je pense que les gens se disent dans ma vie, à moi, qu'est-ce que ça va changer? Et donc ça veut dire, qu'est-ce que ça va changer sur l'air que je respire, la bouffe, mes conditions de travail, l'école de mes enfants, etc., etc. Et l'Europe, elle a un poids monstrueux là-dessus. Mais ça, on ne le sait pas. Nous en parle pas, je suis désolée.
Le clip de campagne du parti de Macron, il vient de sortir, où Macron énumère tout ce qu'il a fait au niveau européen pour l'environnement.
Mais ça n'est pas la même chose.
Oui, c'est pas la même chose.
Le programme
très bien, mais écoute, nous on se comprend. Notre invité, je vais remercier tout de suite Pierre d'avoir été avec nous. Notre invité sur ce débat, c'est Christophe Boutin. Il est professeur de droit public à Caen, politologue et auteur, entre autres, de l'abstention électorale aux éditions FX de Guibert. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous voyez, l'abstention enflamme les débats sur le plateau d'Estelle Midi. Est-ce que vous êtes étonné tout d'abord, Christophe Boutin, par ce chiffre, en fait, 45% seulement des Français comptent se déplacer pour voter le 9 juin.
Écoutez, non, parce que l'abstention progresse dans absolument toutes les élections. Ouais, le chiffre que vous donnez là, c'est presque le chiffre qu'on a eu d'abstention, ou pas très loin, d'abstention au premier tour des élections législatives, qui concernent encore peut-être plus directement les Français que l'élection européenne. Donc, vous le voyez, c'est un problème plus général que simplement pour les élections européennes.
Traditionnellement, l'abstention, elle profite toujours aux partis extrêmes aujourd'hui ?
Non, elle profite pas aux partis extrêmes, elle profite aux partis qui ne sont pas capables de se mobiliser. Et c'est pas forcément les partis extrêmes qui mobilisent le plus. Mmh. En fait, quand on regarde, quand on demande aux abstentionnistes ce qu'ils auraient voté si jamais ils étaient allés voter, on se rend compte que c'est beaucoup plus étalé qu'on ne le pense sur l'ensemble du spectre électoral. Alors c'est vrai que traditionnellement, les partis extrémistes ont tendance à motiver peut-être plus leurs militants. Ouais. Mais par c'est exemple, ça. Ici, dans le cas de Renaissance, on a une motivation, on a vraiment une tentation pour motiver les électeurs. Donc c'est plus étalé qu'on ne le pense.
Christophe Boutin, cette abstention, pour vous, c'est la faute de qui, en fait ? Qui est responsable ?
C'est un peu curieux parce que nous sommes ici dans un mode de scrutin qui, au contraire, est un mode de scrutin qui devrait favoriser la participation, c'est-à-dire qu'on a une proportionnelle à un tour,
intégrale.
On a des listes variées et on ne peut plus varier, donc l'offre qui est énorme devrait attirer les électeurs aux urnes, et ce n'est pas le cas. Alors peut-être est-ce parce que, d'une part, ils ne saisissent pas l'ampleur du poids que représente la réglementation européenne pour nous en France, et d'autre part aussi, il faut bien le dire, peut-être se rendent-ils compte que le Parlement européen n'est pas l'organe central. Contrairement à ce que l'on pense à cause de la similitude de termes, il n'a absolument pas le rôle, car le Parlement national français, c'est pas lui qui fait les lois. C'est le Conseil européen qui fait les lois, c'est la Commission et le Conseil européen qui les votent. Le Parlement est parfois un co-législateur dans un certain nombre de cas, mais c'est tout.
Et est-ce que vous pensez que les médias jouent vraiment leur rôle et que les choses ont été bien expliquées ?
Oui, je pense que les médias font tout actuellement pour donner à cette élection européenne une dimension particulière, j'irais même presque une dramatisation, qui a vocation à ramener les électeurs aux urnes. On peut reprocher parfois, ça et là, des éléments d'explication qui sont un petit peu vagues. Enfin, on ne veut pas non plus rentrer dans le détail technique du fonctionnement de l'Union européenne à chaque fois qu'on fait un reportage sur le sujet.
Oui, c'est sûr. Ben merci beaucoup Christophe Boutin en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà une abstention qui finalement n'est pas si étonnante que ça. On va terminer avec Evan. Evan, il nous appelle d'Angers, il est entrepreneur. Bonjour Evan.
Oui, bonjour.
Evan, abstentionniste ou votant ?
Votant.
D'accord.
Je ne sais pas encore exactement parce que j'attends un peu de choisir pour qui. Mais en tout cas, ce ne sera pas les extrêmes.
Alors, il faut que vous parliez plus près de votre combiné, Evan. Vous dites que vous ne savez pas pour qui vous allez voter, mais au moins, de toute façon, vous allez vous déplacer au moins pour voter blanc. Quoi. C'est important pour vous.
Oui, c'est important. Je trouve que aujourd'hui, enfin voilà, de pouvoir voter, c'est quand même une chance. L'Europe, c'est important aujourd'hui, même dans nos quotidiens, même si on ne le voit pas tous les jours. Quand je vois le nombre de jeunes qui ne vont pas se déplacer, moi, je trouve ça aberrant. Aberrant. Tellement aberrant. Forcément, aujourd'hui, c'est un autre débat, mais on est tellement dans une société de divertissement que les jeunes n'ont même pas la tête à penser à ça. Donc, en fait, ça m'attriste. Vraiment, ça m'attriste. Non, c'est comme ça. Est-ce que les médias font leur jeu? Oui, je pense que, voilà, il n'y a pas de problème au niveau des médias. Je pense.
Ouais, vous estimez suffisamment informé, en fait.
Oui.
D'accord.
Dans tous les canaux médiatiques, complètement. Que ce soit les journaux, la télévision, etc. Donc, moi, c'est vraiment triste. Vraiment triste que personne pour deux ne se déplace pas, quoi.
Bah, merci beaucoup, Evan, d'avoir été avec nous. Voilà, Evan, qui fera partie des Français qui iront se déplacer le 9 juin. On rappelle, c'est la date des européennes et c'est une élection à un tour.
Un seul
voilà.
Tour.
Donc, il n'y aura pas de rattrapage au deuxième.
Quoi. Non,
voilà,
et c'est le même bureau de vote que celui où vous avez voté au présidentiel.
Exactement. On termine avec des messages. Rémi, le résultat de notre consultation sur Twitter.
Allez, Maude nous dit, les jeunes Français ne croient plus en l'Europe, ne croient plus en la politique, alors que nous-mêmes, nos parents, nous avons essayé de leur inculquer. C'est ce qu'elle nous dit. Hein. Ils ne sont plus dupes de tout ça. Mon fils a tout juste 18 ans, il s'est intéressé à tout ça, il en a déduit que l'Europe ne sert à rien. Bah, c'est triste à dire, mais c'est comme ça.
Et Michael
nous dit, bonjour à tous, les jeunes peuvent choisir leur candidat s'ils ne sont pas paresseux pour aller chercher des infos. Mon fils a 18 ans, il regarde régulièrement pour qui aller voter aux européennes.
Le résultat de notre consultation sur Twitter, moins d'un Français sur deux prêt à aller voter, sommes-nous irresponsables ?
Ah bah oui, on est irresponsable pour 68% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Bah on espère que
on
aura envie d'aller voter. Dans un instant, ce sera le zapping, le meilleur d'RMC. On se demandera si le communautarisme dans le sport vous inquiète. On parlera de l'histoire d'un club de foot de l'Hérault. On parlera également du Royaume-Uni, vous savez, qui a voté une loi qui permet l'expulsion aujourd'hui aujourd'hui des migrants vers le Rwanda. Et puis on se demandera si vous êtes des adeptes des câlins. Voilà, il y a eu des études sur ce sujet. Et puis à 14h, donnez-nous votre avis, on se posera la question. Est-ce que vous seriez d'accord pour fouiller dans le portable ou dans la chambre de vos enfants? C'est la préconisation d'une secrétaire d'État. Tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes bien sûr avec Rémi Barré, avec Daniel Riolo, avec Loumir Laprès et avec Robert Sebag. Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur d'RMC. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on démarre tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Le communautarisme dans le sport français vous inquiète-t-il dans le cadre de la lutte contre le séparatisme et le communautarisme? La préfecture de l'Hérault a retiré l'agrément du club de football amateur 7 Olympique. Ce dernier a en effet fait le choix délibéré de ne pas développer le foot féminin et d'apposer sur son logo le croissant et l'étoile, symbole de l'islam. Une décision de la préfecture normale pour la fonctionnaire Zora Bitton.
Alors imaginez cet Olympique avec une croix. Je me dirais que c'est un club de football catholique. Voilà, j'aurais pas spécialement de jugement, mais je me dirais que c'est un club de foot religieux. Donc là, c'est le cas. Mais le pire, c'est de ne pas vouloir développer une section de football féminin. C'est bien fait pour eux, c'est mérité. On fait pas de prosélytisme dans le sport et on ne mélange pas sa foi, sa pratique avec quelque chose de républicain et quelque chose de collectif qui plus est bénéficie de subventions publiques.
Robert Sebag, est-ce que la préfecture de l'Hérault a eu raison de retirer l'agrément de ce club de foot?
Moi, je suis contre le communautarisme donc, par principe. Alors, elle a eu raison, et en particulier parce que quand même, il y a une interdiction d'avoir une équipe féminine, si vous voulez. Donc là-dessus, on revient sur le débat sur la laïcité en général. Et dans le sport, c'est souvent beaucoup plus marquant.
Il y a de plus en plus d'exemples dans le sport.
Et on sait que les jeunes sont attirés par le sport. Il faut faire attention, si vous voulez, à ce prosélytisme, en particulier auprès des jeunes. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas photo.
Vous êtes d'accord avec ça, Loumir?
Moi, ce qui me gêne, c'est l'interdiction, c'est pas l'interdiction, mais le refus de développer le foot chez les femmes, qui est, je connais pas la loi, donc c'est difficile pour moi de me prononcer là-dessus. Qu'il y ait des clubs de foot communautaires, dans l'absolu, ça ne me gêne pas. Enfin, il peut y avoir un club de foot juif, un club de foot. Je pense que ça n'est pas un problème. Là où en effet, il y a peut-être un enjeu d'agrément, quel est le lien de ces clubs avec le public en termes de subventions.
Subventions par la Fédé notamment. Voilà. T'as les subventions après par la ville.
Après, pour moi, il y a différentes choses. Il y a le fait que ce soit un club communautaire. Pour moi, ça doit être légal et j'imagine que ça l'est. Après, ce qui pose moralement un problème, c'est le refus au nom de cette de l'idéologie de la religion avec lequel ce club s'est identifié de développer le foot féminin. Et ça, pour moi, il est là le problème. Il n'est pas de dire on est musulman et on fait du foot. Il n'y a pas. Enfin, je rappelle quand même, la laïcité ne dit pas on n'a pas le droit de parler de religion dans l'espace public. Ça n'est pas ça que ça dit, la laïcité, malgré ce que certaines personnes veulent en penser. Le problème, c'est quand on est le club de foot d'un endroit, de tout un endroit, et pas juste de cette communauté, et qu'en plus, on refuse de le développer pour 50% de la population. Ça, bien sûr.
La préfecture a raison.
Encore une fois, bon, j'aimerais avoir le détail de je sais pas si la préfecture, le sujet pour moi n'est pas empêcher ces musulmans de faire du foot.
Non.
C'est pas le sujet.
Non,
mais c'est
pas ça.
Voilà. Mais je n'ai pas le détail, donc c'est difficile pour moi de me
préciser les choses. Ça n'est pas le problème. Tu as parfaitement raison. Quand j'étais petit, ça existe encore. Mais les clubs communautaires existaient. Ouais. Il y avait les Portugais, de ceci ou cela, de telle ville, le Maccabi d'un tel ou d'un tel. Ça existait. Le problème, c'est que tu fais ton club. En l'occurrence, moi, dans ma ville, il y avait les Portugais de Rissorangis. Ils faisaient leur truc, leur barbecue le dimanche. Il n'y avait aucun problème avec ça. Sauf que il fallait que tu restes dans le cadre de la République.
Normal.
Tout simplement. Là, en l'occurrence, ce club. D'abord, le nom de la ville avec des insignes religieux. On est plus que border, et si à l'intérieur les règles sont anti-républicaines, et là on arrive dans, il n'y a pas de section féminine par principe, il y a pas telle et telle chose par principe parce que c'est pas ça correspond pas à nos valeurs, à notre religion. Là, t'es anti-républicain et là, le club ne peut pas exister. C'est clair, oui. C'est simple. Il y a pas de laïcité, il y a pas de ceci ou de cela. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Là, c'est une association qui se crée. Et qui dit on est en séparation. Le problème c'est le séparatisme. Et les premiers rapports sur ces questions-là datent de 2014. Le premier rapport au Sénat sur le séparatisme dans le sport qui fait des ravages énormissimes et dont on parle trop peu parce qu'il y a tellement de sujets de séparatisme dans notre pays aujourd'hui. On ne sait plus par quel bout prendre le problème. Et en plus il y a une forme d'omerta notamment dans le foot. Alors qu'il y a de plus en plus de clubs qui le pratiquent dans les faits et qui se cachent de ça.
Mais comme quoi par exemple?
C'est-à-dire
des exemples.
Retarder les matchs pour faire les prières, l'homophobie.
Non mais tu vois, pour moi, c'est très différent. L'homophobie, c'est un délit. Donc en fait, ça n'a sa place nulle part. Retarder un match pour faire une prière. Moi, je ne vois pas
les associations qui vont porter des discours pour lutter contre les discriminations. Nous, on en connaît, on en a reçu dans l'émission. Ils terminent par se faire caillasser. Ils ne peuvent plus tirer dans la majorité des clubs.
Je crois que les musulmans n'ont pas le monopole de l'homophobie dans le sport parce que
il se trouve qu'en l'occurrence, dans énormément de clubs, c'est là qu'est le problème. Donc il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Le problème religieux, le fait religieux qui empêche de tenir certains discours, il suffit de voir de quelle façon la Ligue devait régler les problèmes au moment de la journée contre l'homophobie pour faire porter un maillot ou un brassard.
C'est un
cirque à tel point qu'on a éliminé cette journée et qu'on l'a transformée en autre chose. Là, le sujet, pour terminer là-dessus, c'est juste du séparatisme, c'est anti-valeur républicaine. La question ne doit même pas être posée.
D'accord. Non mais moi le truc qui me gêne c'est qu'en fait on mélange tout parce que si on a un club musulman appelé comme tel, identifié comme tel, qui repousse là où tous les gens qui feraient partie de ce club sont pratiquants et qui décident de reporter le début du match.
C'est tout ce que tu dis.
Club communautaire.
Imagine ton gamin, le club le plus près de chez lui. C'est un club comme tu dis effectivement avec que des musulmans et tout. Ton gamin il est catho, il peut pas aller jouer dans ce club. Mais t'imagines?
Mais c'est le principe du club communautaire.
C'est un petit musulman qui peut pas rentrer dans un club catho.
Dans les principaux clubs, les Maccabi machin, étaient ouverts à tout le monde, à toutes les confessions. Et même le club, les Portugais machin, si t'étais pas Portugais, t'avais le droit d'y aller.
Oui, d'accord. Et c'est comme si on t'interdisait dans une école.
Et là, est-ce que c'est le cas ou pas? C'était le cas ou pas?
Ben là manifestement,
c'est carrément les valeurs véhiculées par le club, c'est limite.
En fait, tu peux avoir un club, je veux dire, effectivement, parler des Portugais de Ris-Orgès, mais tu es pas Portugais, tu peux quand même aller dans ce club-là. Tu vois ce que je veux dire?
Je sais même pas comment ils ont même pensé que ça pouvait passer. C'est dire à quel point le séparatisme est fort dans le pays. On a même pensé à faire un logo. Là, c'est hallucinant.
Mais peut-être que c'est parce que la plupart des gens qui sont dans ce club sont concernés et qui ne voyaient pas le problème. Enfin, je veux dire, on peut aussi imaginer.
Mais ne pas voir le problème, c'est déjà un problème.
Ils le voient maintenant.
On peut, oui, tout à fait. Mais pour moi, il ne faut pas tout mélanger entre des choses qui sont respectées, des contraintes que des gens ont choisi de se fixer, notamment les horaires d'entraînement, etc. Attends, je veux bien finir. Et des choses qui sont des délits. L'homophobie, c'est un délit.
Oui.
Ça n'a pas de rapport avec l'horaire de l'entraînement. Ce sont deux choses qui sont différentes.
Refuser qu'une femme.
C'est un délit aussi.
Pas voulu qu'une femme arbitre le match.
Non, mais voilà.
Tu participes à un championnat qui est géré par la 3F.
Exactement.
Tu n'as pas imposé tes règles. Ce sont les règles de la 3F qui s'imposent.
On est bien d'accord, mais il ne faut pas tout mélanger.
Mais personne ne mélange rien depuis tout à l'heure. Tu sais, on est très clair.
Apolline Matin, ce matin sur RMC. Comme le Royaume-Uni, la France doit-elle expulser ses migrants? Hier, le Parlement britannique a voté une loi, qui fait polémique puisqu'elle permet désormais l'expulsion de migrants illégaux vers le Rwanda. Un plan honteux pour Yann Monzi. Il est fondateur de l'association d'aide aux migrants Utopia 56.
Oui. Ils sont prêts à tout, c'est donner de l'argent à des pays pour faire le sale boulot. On n'est pas tout à fait sûr du respect des droits fondamentaux dans ce pays. On craint le pire, éventuellement les renvois du Rwanda vers leur pays.
Lumière l'après, la France doit-elle expulser ses migrants comme le Royaume-Uni?
Mais non, mais absolument pas. Alors déjà, il faut le répéter parce qu'en fait, on a l'impression il faut le dire, il n'y a pas de problème d'immigration massive dans notre pays. Il n'y en a pas. Il y a un problème de l'accueil. Ça, c'est sûr, il y a un problème d'accueil. Il n'y a pas de problème d'immigration massive dans le pays. Un. Deux. ça n'a aucun sens. Ce projet n'a aucun sens. Prendre des personnes qui ne viennent même pas du Rwanda pour aller trouver un pays où on va les décharger dans un pays qui n'a aucun rapport avec leur culture, avec leur projet. Enfin, en fait, il faut arrêter de croire que les migrants, il faut se rappeler, on parle d'êtres humains qui ont, pour différentes raisons, quitté leur pays pour trouver une vie meilleure dans un pays plus développé. Ok, c'est ça, hein, la migration, tout simplement. Là, je veux dire, j'en suis à un stade où je me dis dans quelle société on vit pour que cette idée germe, cette idée soit acceptée et cette idée soit mise en place. C'est inhumain. Je rappelle encore une fois, parce qu'en fait, il y a un moment, il faut dire les termes, c'était le projet d'Hitler. Hein. Le projet d'Hitler, c'est pas d'exterminer...
On touche à l'histoire.
Disons les termes. Les termes, c'est le génocide de la Shoah. À la base, il n'est pas prévu comme un génocide. Il est prévu comme un déplacement massif de la population juive européenne à Madagascar.
Vous arrêtez. Ça a commencé avant les camps de concentration où on mettait avec les malades psychiatriques, avec les
je
juifs.
Je suis bien d'accord.
Les pots d'échappement dans des champs pour les asphyxier. Ne jouez pas avec l'histoire.
Mais je ne joue pas avec l'histoire. Je dis que nous avons déjà expérimenté les déplacements massifs de population pour régler le problème. Pourquoi c'est pas un déplacement massif de population. Ma mère est prof d'histoire, spécialiste de la Shoah. Mais je ne joue pas avec ça.
On peut y aller, moi
je ne joue pas. Très bien, mais en fait, je ne joue pas avec l'histoire. Je rappelle des faits. Pourquoi ça te déçoit?
Ça me déçoit.
Je rappelle des faits.
Les faits. Ça veut dire parce qu'on n'a pas pu les envoyer ailleurs, qu'on a fait des camps de concentration pour les tuer. C'est ce que vous venez de dire. Et vous n'avez pas le droit de dire
oui,
ça.
Oui, c'est la mais enfin non, Robert, non, c'est la réalité, c'est la réalité.
Il n'y a pas de parallèle. Vous avez fait comme Mélenchon qui fait un parallèle entre le président d'université et Adolf Eichmann.
Ça n'est pas absolument pas la même chose et je suis désolée, je vais quand même revenir là-dessus parce que c'est juste pas possible de me dire ça. Je rappelle que des déplacements massifs de population sont le fait de régimes totalitaires qui ont un projet génocidaire.
C'est pas passé comme ça. Vous n'avez pas le droit de dire
Robert,
ça.
C'est
la nuit de cristal où je vous rappelle un certain nombre de choses.
Je te dis que le plan qui est prendre une population qui pose problème, qu'une population qui est présentée comme posant problème, un problème insoluble dont on ne saurait pas quoi faire et qu'on va décider de sous-traiter.
Ils ne posaient pas un problème en Allemagne.
Mais moi je te dis que les migrants ne posent pas de problème. Ils sont construits comme posant un problème.
On va terminer avec un peu de douceur, parce que là c'est bon, vous m'avez épuisé. Les GG, êtes-vous adepte des câlins? Une étude allemande révèle que pour rester en pleine forme, il ne faut pas faire que du sport ou bien manger, il faut aussi se faire des câlins. C'est un très bon moyen de lutter contre l'anxiété, la douleur ou encore la dépression. Et Zora Bitton en est une grande adepte, comme elle l'expliquait ce matin dans les GG.
Ah mais moi, j'ai vécu que comme ça, donc c'est ma vie, c'est comme ça.
T'as beaucoup câliné tes enfants?
Je câline beaucoup mes enfants. C'est très important, ça fait partie de... Bah moi, ça m'a sauvé, l'amour ça sauve, les câlins câlins, ça sauve. Les bisous, ça sauve. Ça donne de la force, ça donne du courage, ça donne des étoiles dans les yeux.
Bah moi, j'ai eu tout ça sans câlin.
Je sais pas comment c'est vivre sans tout ça.
Voilà, faites-vous des câlins. Et c'est vrai, Robert, que c'est quand même ce qui nous avait le plus manqué pendant le Covid et qu'après le Covid, même ceux qui ne faisaient pas la bise, finalement, se faisaient des hugs.
C'était très dur, le poing, comme ça.
Ouais, c'est horrible.
Ça nous manquait. Et vous savez, moi, je fais le rapprochement avec les animaux. Les animaux, ils ont besoin de câlins. Quand vous avez les petits chats, par exemple, se mettent à ronronner dès que vous leur faites des petits câlins. Même des chats qui
sont certains humains aussi, vous savez.
Mais je crois que ça me paraît extrêmement important parce que il y a des sécrétions hormonales qui se font avec les câlins, vous savez. Donc ça arrange beaucoup.
Tout est médecine avec Robert, hein. C'est bien parce que tout est médecine, hein, avec Robert. Parce que
tu fais un câlin, tu lui dis attends, je suis en train de sécréter un peu.
Non, Daniel, un peu facile, pardon.
Allez, dans un instant, il y aura RMC Conso. On va parler. Non, pas du tout. Il y aura pas du tout RMC Conso. Ce sera RMC s'engage avec vous. Pardon, et on va reparler de l'ASFAM. Vous savez, c'est cette société d'assurance qui avait arnaqué pas mal de clients. On a du nouveau dans ce dossier. Et puis à 14h, on se posera cette question. Doit-on fouiller dans le portable et la chambre de nos enfants pour les protéger ? C'est en tout cas ce que préconise une secrétaire d'État. Tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 13h51, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi et c'est l'heure à laquelle on vous aide chaque jour dans l'émission grâce à Amélie Rosy qui RMC s'engage avec vous.
Estelle Midi,
RMC s'engage avec vous.
Et Amélie, une fois encore, nous reparlons de l'ASFAM. C'est un peu notre débat phare. L'ASFAM, c'est cette compagnie d'assurance qui avait arnaqué énormément de clients. Une affaire qu'on vous avait révélée sur RMC il y a plus de 2 ans déjà.
Absolument, elle fait aujourd'hui partie du groupe Indexia et n'a plus le droit de vendre de nouveaux contrats. Mais jusqu'à l'année dernière, l'entreprise assurait des dizaines de milliers de produits électroniques. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience en achetant un téléphone ou une tablette. Des contrats signés pour 15 ou 30 euros par mois qui coûtaient finalement jusqu'à 10 fois plus cher. Et ça continue puisque des auditeurs nous contactent très régulièrement à l'adresse RMC avec vous à rmc.fr. Ils réclament un remboursement et sans succès, évidemment. Désespérés, 150 d'entre eux ont manifesté devant le siège à Romans-sur-Isère dans la Drôme vendredi dernier, représentés par l'avocate Emma Léotti. Ils ont trouvé porte close.
C'est le peuple qui est descendu dans la rue, qui a demandé des comptes et des remboursements à une société française, qui a préféré prendre la fuite, fermer les portes pour ne pas avoir à affronter le regard de mes clients. Je trouve ça dommage.
Des employés de l'ASFAM, quand même, avaient été chargés de distribuer un document devant les locaux, invitant les clients à envoyer leurs réclamations avec la promesse d'une réponse avant hier soir. Promesse non tenue.
Oh, mais quelle surprise! Mais Amélie, c'est incroyable, ça vient de tomber, les choses viennent de bouger dans cette affaire.
Absolument, parce que si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ce matin, l'ASFAM était assignée devant le tribunal de commerce de Paris par l'URSSAF, parce que l'organisme réclame plus de 11 millions d'euros d'impayés de cotisations en tout genre. Et c'est une information RMC qu'on vous révèle. À l'instant, le procureur a requis le placement en liquidation judiciaire du site de Romans-sur-Isère de la SFAM. Selon nos informations de sources concordantes, un mandataire judiciaire a même déjà été désigné pour exécuter la liquidation judiciaire de l'entreprise. Tout ça en présence du grand patron, Sadri Fegaïer, qui est aussi le plus jeune milliardaire de France. Voilà, tout ça, ça a des conséquences sur les clients. Pas forcément positives.
Ah mince.
Non, parce que qui dit liquidation judiciaire dit... déclaration de créance. Et si vous voulez, c'est l'État en premier, c'est les fournisseurs, c'est les salariés, évidemment. Et puis ensuite, à la toute fin, éventuellement, c'est les clients. Sauf que l'avocate, pour assurer ses arrières et surtout les intérêts de 600 de ses clients qu'elle accompagne, elle a engagé des procédures contre d'autres entreprises. 3. D'accord. MMA, Axeria et la FNAC, parce que c'était des partenaires commerciaux de l'ASFAM. Et donc, ils sont en partie, en tout cas la justice le dira, responsables. L'avocate évalue le montant total du préjudice de ses 600 clients à plus de 3 millions d'euros quand même.
Et ces clients, ils peuvent espérer quoi alors ?
Alors, Maître Léotti, elle a déjà obtenu quand même 300 000 euros de remboursement négocié à l'amiable. Et des actions judiciaires étaient toujours en cours. 2 procédures collectives au civil pour récupérer des dommages et intérêts et un procès pénal pour pratique commerciale trompeuse qui devait s'ouvrir en septembre. Sauf que normalement, la reprise de danse c'est à 14h là devant le tribunal de commerce. On verra ce qu'il en dit. Mais en toute logique, quand il y a liquidation judiciaire, il y a suspension, voire annulation des procédures qui sont en cours. C'est un peu comme quelqu'un meurt, on va pas aller le poursuivre. Donc on verra ce que ça donne. De son côté, quand même, on va le répéter,
le groupe, on l'a eu hier soir par mail et il nous disait que non, c'est pas le bon montant des impayés à l'URSSAF. Et surtout, il nous assurait qu'il allait régler sa dette. Bon, bah, visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas.
C'est pas gagné. Merci beaucoup, Amélie, pour ce combat qui dure déjà depuis plus de 2 ans. On parle de quoi demain, Amélie ?
On va aider un gendarme en reconversion d'agent de sécurité. Il n'a pas été hyper bien aiguillé par France Travail.
Non. J'ai hâte d'être à demain. Merci beaucoup Amélie Rosic. Et si vous aussi voulez être aidée par Amélie et toutes ses équipes, vous n'hésitez pas vous nous écrivez un mail à l'adresse rmcavecvous@rmc.fr. Amélie, j'ai une petite question indiscrète pour vous.
Tiens.
Il a quel âge votre fils ?
Il vient d'avoir 2 ans.
D'accord. Mais quand il aura 12 ans, par exemple,
12
ou 14, est-ce que vous pourriez fouiller dans sa chambre ou dans son portable ?
Oh, il faut se projeter hyper loin. J'avoue, je m'étais pas encore projeté si loin. Ça va venir après. Ouais, j'ai envie de dire oui. Enfin, j'ai honte, oui.
Oui.
Bah oui, c'est-à-dire, je l'ai fait à un moment donné. J'ai le droit d'aller dans son portable.
Mais n'ayez pas honte. C'est une préconisation de la secrétaire d'État, Sabrina Agresti-Roubache, qui encourage justement les parents à fouiller dans la chambre, dans le téléphone de leurs enfants. D'accord ou pas d'accord avec ça? On en débat dans un instant avec vous au 3216 et sur l'appli RMC. Dites-nous, par exemple, si vous regardez comme ça de temps en temps dans le portable de vos enfants, si vous avez leur code ou si au contraire, jamais, au grand jamais, vous ne fouillez parce que c'est leur vie privée. On vous attend dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.